RFI, grand reportage.
Sébastien Duhamel.
On part sur la côte est de l'Afrique, à la découverte d'un tout petit bout de terre, l'île de Mozambique. Ilha fut pendant plus de 3 siècles la capitale de la colonie portugaise d'Afrique orientale, avant de donner son nom à un tout petit pays. L'île, qui compte 14 000 habitants, est minuscule, 3 km de long sur 300 ou 400 mètres de large, tour à tour arabe, indienne, portugaise ou africaine, Ilha a vu défiler les hommes et connu la splendeur et les affres d'une histoire mouvementée. Le commerce des esclaves et de l'ivoire fit la fortune de ce comptoir stratégique sur la route des Indes. Lisa Fabian a cherché à reconstituer l'histoire de cette île par la voix de ses habitants, entre le quartier de pierre touristique du nord de l'île et le quartier de palme densément peuplé au sud.
On se trouve juste à l'entrée du pont qui mène à l'île de Mozambique. C'est une bande de béton étroite montée sur pilotis et à une seule voie, donc il faut souvent s'arrêter sur le côté pour laisser passer les motos et les chapas, les minibus qui arrivent en face de nous.
Donc là par exemple, on s'arrête pour laisser passer une voiture qui arrive de l'autre côté.
De l'autre côté de ce pont, d'un peu plus de 4 km de long, on distingue les façades usées de l'île de Mozambique, l'ancienne capitale de la colonie portugaise en Afrique orientale. Pour commencer ce voyage, on se faufile dans les ruelles du quartier populaire de Makuti, au sud de l'île, jusqu'à la petite porte de Buena Amadé.
On entre par une petite porte bleue à la peinture défraîchie dans un jardin, une tonnelle. Il fait frais et il y a énormément d'objets.
Cet endroit, je l'appelle le mini-musée ou le musée-jardin. Par exemple, cette grosse brique, elle vient des carrières dans lesquelles ont été excavées les pierres qui ont servi à construire la ville de Pierre et Chaud. Ces conques, là, je les ramasse à la pointe de l'île. Par exemple, cette table en fer forgée, elle date de l'époque coloniale. Et regardez, ça, c'est la roue d'un ancien rickshaw. Des fois, quand j'ai du temps libre, je vais ramasser des objets dans la mer ou sur la plage. Des pierres, des morceaux de verre qui viennent des épaves qui entourent l'île. Cette grosse pièce de monnaie, je l'ai récupérée comme ça. Et tout ça, ça me fait rêver.
Le vieil homme nous emmène dans sa maison de l'autre côté de la rue en terre battue. Il y a des dizaines de photographies accrochée au mur. Près d'un calendrier de 1986, une carte postale représente le célèbre hôpital d'Ilha de Mozambique. Sur l'image, la peinture semble fraîche, mais aujourd'hui, cet impressionnant bâtiment colonial est totalement délabré.
Ces photographies-là, ce sont les photographies de gens de l'île, mais beaucoup d'entre eux sont déjà morts. Par exemple, là, dans ce cadre, tout le monde est mort. Là, il y en a encore 2 ou 3 seulement qui sont encore vivants.
Armando Magalhães está aqui. António Magalhães.
Regardez, celui-là, il est très vieux. C'est mon voisin.
On retrouve James, l'un des guides qui travaille à Ilha, pour se rendre à la pointe nord de l'île où se dresse la forteresse et son impressionnante muraille de pierre de corail.
C'est la forteresse de Saint-Sébastien. Sa construction a débuté en 1558 et s'est achevée en 1620.
Et toutes ces pierres, elles viennent de l'île ?
Oui, elles viennent de l'île. De l'autre côté, dans la ville de Makuti, où la population locale vit aujourd'hui. Si vous allez faire un tour là-bas, vous verrez, les maisons sont construites sous le niveau de la rue, car la terre a été creusée pour en extraire toutes ces pierres qui ont servi à construire la forteresse et les maisons de pierre qui se trouvent au nord de l'île, dans la ville de Pierre et de Chaux.
On est en face de l'entrée principale de la forteresse. Dans ce mur de pierre de corail noir, on a cette très belle porte blanche surmontée par un écusson portugais gravé dans le marbre et une grosse couronne faite de marbre blanc. Voilà.
En 1498, les Portugais ont découvert l'île de Mozambique qui était occupée à l'époque par les Arabes venus de Zanzibar. Les Arabes n'étaient pas des colons comme les Portugais. C'était avant tout de grands commerçants. En tout cas, ils n'avaient pas prévu de s'arrêter ici en venant du Portugal. Leur objectif était de rallier Goa en Inde. Mais Vasco de Gama s'est égaré et a découvert cette petite île, même s'il a dû fuir finalement devant le sultan local. Il a compris très vite que l'île était un point stratégique entre le Portugal et Goa, sur la route des Indes. Les Portugais sont ensuite retournés en Europe avant de revenir et en 1507, ils ont commencé à construire la ville.
Maintenant, on rentre à l'intérieur de la forteresse, donc qui est quand même très à l'abandon. Donc, les murs sont recouverts de mousse, de moisissures. Le bois au plafond est usé, rongé par l'humidité. La peinture est partie et les herbes hautes commencent à dévorer en fait les murs de cette forteresse.
D'ici, vous pouvez tout voir. Regardez comme la forteresse est grande. Ces toits ont été construits de manière à pouvoir collecter l'eau de pluie, car pendant longtemps, il n'y avait aucune source d'eau fraîche sur l'île. Tous les toits de la ville ont été conçus pour récupérer l'eau de pluie. La forteresse compte deux grands réservoirs d'eau, mais cette eau était réservée aux soldats qui étaient postés ici.
Sous nos pieds, en contrebas, des restes de murailles sont plantés sur des coraux noirs et aiguisés.
Là, en dessous, c'est l'endroit depuis lequel les esclaves étaient embarqués vers le large. On venait les chercher ici, dans la forteresse, et on les embarquait sur des petits esquifs pour les emmener vers les galions amarrés au large. Les livres d'histoire disent que beaucoup d'esclaves étaient emmenés vers le Brésil, vers les Amériques. Ces esclaves, ils venaient de tout le Mozambique. Il y a beaucoup de petits ports tout le long de la côte. Et ils transitaient par là avec les matières premières. L'île de Mozambique était le grand comptoir depuis lequel les esclaves partaient au large.
Pendant plus de 3 siècles, le commerce des esclaves est florissant sur l'île de Mozambique. Des centaines de milliers d'hommes et de femmes ont transité par ce comptoir portugais. Les Français s'en mêlent aussi. De la main-d'œuvre gratuite est embarquée depuis l'île de Mozambique jusqu'au rivage de la Réunion ou de l'île Maurice.
Voilà la chapelle Nossa Senhora de Baluarte. Elle a été construite en 1522. C'est le plus ancien bâtiment européen encore debout dans tout l'hémisphère sud. Les Portugais étaient très catholiques et s'en remettaient à Dieu.
C'est une architecture extrêmement défensive. Les seules ouvertures pratiquées dans la pierre sont en forme de haute croix. Les canons étaient positionnés juste en dessous. À l'intérieur et à l'extérieur de la chapelle, on compte aussi une dizaine de tombes de dignitaires portugais morts sur l'île de Mozambique au tout premier temps de la conquête.
Vous voyez cette tombe là dans le mur dont la pierre a été brisée? Un groupe de travailleurs mozambicains qui réparait un mur dans la ville portugaise a découvert une boîte, avec à l'intérieur un coffret à bijoux. Il y avait des pièces d'argent, de l'or, beaucoup de trésors dans cette boîte. C'est pour ça, certains ont cru qu'ils pourraient trouver les mêmes richesses ici, et ils ont éventré la tombe. Mais il n'y avait que les ossements du dignitaire qui avaient été enterrés ici.
On est de retour dans la ville touristique, la ville portugaise. De ce côté, on voit des rampes de pierre qui plongent dans la mer à intervalles réguliers. Elles servaient à désembarquer les esclaves venus du continent avant de les transférer en quarantaine ou dans la maison d'un marchand.
Voilà, il y a une rampe ici, une autre là. Il y en a beaucoup d'autres, mais seulement de ce côté de l'île, pour désembarquer les esclaves qui venaient du continent là-bas. Et ce bâtiment, c'est une ancienne prison où on les parquait.
Tout près d'ici, un jardin de la mémoire a été inauguré en 2007. Ce lieu a été réalisé en collaboration avec des artistes originaires de l'île de la Réunion. Vers le sud de l'île, on bascule dans un autre univers. Il suffit de passer une rue, une frontière invisible, pour se retrouver dans la ville de Makouti, populaire et africaine. Les toits de palme des paillotes construites dans les anciennes carrières de pierre de l'île atteignent tout juste le niveau de la route pavée, où nous marchons très rapidement avec notre guide, Eddy.
Ici, les gens vivent sous le niveau de la mer parce que le sol a été creusé pour en extraire les pierres de corail pour construire la ville de pierre et d'eau chaude. Janvier, février, mars, ce sont des mois terribles pour ceux qui vivent ici parce que l'eau monte dans ces caniveaux. Il y a énormément d'eau stagnante partout ici. Il y a beaucoup de malaria de ce côté de l'île. Au moment de l'indépendance, en 1975, il n'y avait toujours pas d'eau courante pour les locaux. Donc, ils utilisaient l'eau de ces puits. Mais c'est de l'eau salée, de l'eau de mer, qu'ils mélangent avec de l'eau de pluie. Les pauvres pouvaient aussi aller chercher de l'eau dans les réservoirs de la forteresse. Maintenant, il y a des pompes, et l'eau fraîche est amenée du continent. Mais les plus pauvres continuent d'utiliser de l'eau salée. Nous faisons nos maisons carrées, comme les Arabes. C'est la même manière de les construire qu'il y a 500 ou 700 ans. C'est là que vivent les plus pauvres. Vous voyez cette maison à moitié détruite? Personne ne peut réparer ça, parce que la famille est trop pauvre pour payer. Et dans une maison comme ça, vous pouvez trouver 10, 20 personnes. Sur l'île, il y a 6 mosquées et 4 chapelles. La principale chapelle est dans la ville de Pierre et de Chaux, parce que les gens dans le quartier de Makouti sont surtout des musulmans. Regardez, voilà une école coranique. Les gens ici apprennent à lire et à écrire l'arabe, parce qu'historiquement, les Arabes étaient établis ici, sur l'île.
Donc on arrive devant une porte qui se trouve juste à côté de la madrasa, de l'école coranique. Il faut d'abord demander une autorisation pour entrer dans cet endroit. À l'arrière de la mosquée, il y a une cour avec une porte qui mène vers la mer. Et juste sous la mosquée, derrière une natte qui est retenue par une branche, un tronc d'arbre, il y a ce tunnel très très sombre qui s'enfonce en fait sous la terre.
Lorsqu'ils étaient débarqués sur l'île, les esclaves passaient par cette porte. Puis ils étaient poussés à travers ces souterrains pour être emmenés vers leur prison ou dans les sous-sols de la maison d'un marchand d'esclaves. En ressortant de terre, ils étaient complètement désorientés. Ils ne savaient pas où ils étaient. Mais cela, c'était bien avant que cette mosquée ne soit construite.
Le tunnel est bloqué par le sable, difficile de dire où il mène, peut-être vers la maison d'Afige, à quelques rues de là. C'est une vaste bâtisse de pierre, la plus vieille du quartier.
My complete name is Afige Abdourazak Hassan Haj Ousmane Jamou.
Je suis né dans cette maison. Mon père est né ici, mon grand-père aussi est né ici. Cette maison fait partie du quartier de Makouti. Les gens d'ici appellent cette bâtisse la maison des merveilles.
Afige est à la fois chef religieux et leader communautaire. Depuis 3 générations, sa famille est à la tête de l'une des plus importantes confréries soufis de l'île de Mozambique.
Ici, notre identité est swahili, avec des influences portugaises, arabes et makoua, bantous. Tout cela irrigue notre identité locale. C'est un mélange, une diversité très typique, spécifique d'Ilia.
Cette diversité, on la retrouve dans les traits d'Afige et dans sa pratique religieuse qui conjugue tradition africaine et musulmane. Afige garde en lui la mémoire de l'île et de ses mélanges. En homme érudit, il est l'un des seuls à nous parler du passé esclavagiste d'Ilia.
En fait, le processus d'esclavage a laissé des marques profondes. Les Arabes sont arrivés ici comme des commerçants. Ils étaient ici pour faire du troc d'épices, de vêtements. Mais plus tard, ils ont réalisé qu'il y avait aussi une force de travail ici, qu'on peut utiliser, que l'on peut vendre. Au plus fort de l'esclavage, il y a eu des situations très graves, des castrations. Bien sûr, le travail n'était pas payé, le travail local. Et cela a laissé des traces très profondes dans la population africaine d'ici. Aujourd'hui, ces gens ont gardé un caractère un peu rude. Mais je ne dirais pas non plus qu'il y a un ressentiment particulier, puisque l'esclavage a pris fin il y a bien longtemps. Il n'y a plus personne ici qui a souffert directement de l'esclavage.
Mais est-ce qu'on retrouve le souvenir de l'esclavage dans les chansons ou dans l'art?
Oui, absolument. La musique de Zena Bakar, par exemple, reflète cela. C'est comme des pleurs profonds, comme la tristesse d'un peuple. Je sens au plus profond de moi que cette musique reflète ma culture. Et je sens aussi qu'elle est douloureuse. On a l'impression que ce chant est blessé parce que cette chanson est chantée avec un langage de souffrance, comme une grande fatigue.
Sur le quartier de Palme, la pluie tambourine sur les toits. Lucia, Ibrahim et 2 autres femmes se serrent dans la pièce à vivre plongée dans l'obscurité. Elles sont assises sur le sol devant une telenovela brésilienne.
Le tufo, c'est une danse typique de l'île du Mozambique. Le tufo prend ses racines dans la tradition musulmane, Notre musique est née avec l'arrivée des populations arabes qui se sont installées ici. Avant que les Portugais et Vasco de Gama n'arrivent ici, les femmes n'étaient autorisées à chanter et à danser qu'à l'intérieur des maisons. Les femmes étaient très religieuses, elles ne pouvaient même pas parler aux hommes. Beaucoup portaient le voile et elles ne pouvaient pas quitter leur maison. Donc elles dansaient le tuffo lors de cérémonies, dans l'intimité du foyer. Ce n'était que pour les gens qui participaient à la fête. Après leur arrivée, les Portugais ont demandé aux femmes de sortir des maisons, de danser dehors, en pleine lumière, pour eux. Comme la population avait peur des Portugais, ils ont bien dû accepter. Et les femmes ont commencé à danser dans les festivals, lors de cérémonies officielles, quand le gouverneur de l'île organisait une réception.
À l'indépendance, le gouvernement marxiste transforme ses groupes en instruments de promotion culturelle. Celui-ci porte le nom d'Estrella Vermilia, l'étoile rouge.
Cette chanson-là parle de notre île, Ilha de Mozambique. Nous chantons l'histoire des premiers hommes à avoir découvert cette terre. Nous chantons les conquérants arabes. À l'époque, il n'y avait pas de pont pour relier notre île au continent. Quand les Portugais sont arrivés ici, perdus par les vents, Vasco de Gama a rencontré le sultan Ali Moussa El Bik. C'est l'île de El Bik qui est devenue terre de Mozambique.
Ilha porte les marques de sa splendeur et de son déclin. Au XVIIIe siècle, l'île de Mozambique prospère toujours sur le commerce des esclaves et de l'ivoire. Mais avec la révolution industrielle, l'intérêt se porte peu à peu sur l'or et le charbon venus d'Afrique du Sud. La capitale de la colonie portugaise est déplacée à Lourenço Marques, la future capitale Maputo, au sud du pays. L'ouverture du port de Nacala fait perdre à l'île ce qui lui restait d'importance stratégique et commerciale. Puis c'est l'indépendance. En 1975, les Portugais mettent la clé sous la porte.
Voilà, ah, c'est mon frère.
Ici, les maisons, c'était tout nationalisé. Ma famille habitait dans le Makoti. Il y avait un Portugais qui s'en allait. Il a vendu la clé à mon père.
Nina Cassimo tient un magasin dans la ville de Pierre.
J'ai connu il y a abandonné. Dans mon enfance, on ne jouait pas les petites maisons de poupées. On jouait dans les vraies maisons. Et ça commençait à tomber tout en ruine. Et après, il y a eu la guerre civile. Des réfugiés qui arrivent sur Ilha commençaient à rentrer dans ces maisons et ils commençaient à prendre des portes, tout le bois qu'il y avait à l'intérieur des maisons pour faire le feu, pour cuisiner. Et après la guerre est finie, les gens sont partis, il y a quelques maisons qui commençaient à être vendues, il y a des Européens, des étrangers achetaient ces maisons et maintenant c'est retapé. C'est très différent. Toute cette partie ici, c'était vraiment cassé.
L'île de Mozambique est classée depuis 1991 au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais les intérêts y sont parfois contradictoires. Dans la ville de Pierre, les hôtels de luxe prennent le pas sur les ruines vendues au plus offrant. De l'autre côté, dans la ville de Palme, la pression démographique s'additionne à la grande pauvreté.
Je m'appelle Issoufo, j'ai 26 ans. Je suis volontaire pour la Fondation pour le développement de l'île de Mozambique. Ce qui est triste, c'est qu'il n'y a pas 10 familles originaires de l'île qui vivent dans la ville de Pierre et Chaux. En fait, l'île est extrêmement divisée. De l'autre côté, c'est pareil. Il n'y a pas 10 blancs qui vivent dans la ville de Palme. C'est pour ça que de temps en temps, les gens appellent cette partie sud la partie des pauvres et des esclaves, et la partie au nord, la ville des blancs. Et c'est vraiment dommage. Moi-même, je suis de l'île et je ne vais dans la cité portugaise que pour travailler ou pour me divertir. Mais nous n'avons pas assez d'argent en général pour venir y boire un verre. Donc il n'y a presque aucun local qui va entrer dans un hôtel.
Le niveau de pauvreté très élevé reste l'un des principaux risques identifiés par l'UNESCO dans son plan de conservation de l'île, qui doit en principe permettre à la population locale de bénéficier elle aussi de son patrimoine. Les changements climatiques et environnementaux sont autant de défis, alors que la spéculation immobilière accélère la transformation de l'île au nord comme au sud. À la fois fragile et immuable, Ilha continue pourtant de résonner des échos lointains de son histoire métissée. Il Elia de Mozambique, La mémoire du Nil, un grand reportage de Lisa Fabian et Pierre Chaffanjon.